d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Mode d'emploi. Fréquence Paris Pluriel, c'est le 106.3 FM. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas réagir au standard puisque c'est une émission qui est enregistrée, en différé. Alors, je reçois aujourd'hui Odile Merkling et Alain Véronèse, double titre hein, pour la parution du livre Pour une sécurité sociale du chômage aux éditions Sileps. Et pour parler bien entendu de l'actualité, puisque le livre a été sorti en prévision des multiples réformes, on peut le dire, du gouvernement Macron concernant l'assurance chômage. Alors, bonsoir à tous les deux. Alors, on va juste commencer par un point d'actualité sur la réforme en cours, puisque les médias en ont un peu parlé. Alors, je précise que vous êtes tous les deux des membres d'Agir Ensemble contre le chômage, et donc oui. vous êtes très au fait hein, de toutes les réformes. Alors on a beaucoup parlé de la réforme Macron, et vu de loin, alors je dis ça, je joue peut-être le naïf, mais voilà, vu de loin, on s'est dit, bon ben c'est beaucoup de choses, c'est une tempête dans un verre d'eau, puisqu'il nous avait promis quand même monts et beaucoup de choses pendant la campagne électorale, une étatisation de l'UNEDIC, une indemnisation de base pour les chômeurs. Et puis finalement la réforme est arrivée par décret, comme on s'y attendait, mais Odile tu nous en parleras. Et puis on est dans le dur. Et alors, ce qui a fait la une des journaux, par exemple, c'est le plafonnement des indemnités pour les plus hauts revenus de remplacement, en fait, hein, pour les cadres. Et puis un calcul qu'on comprend pas très bien, pour tout dire. Hein. Et donc, on a une visibilité qui est pas très importante. Alors, toi, Odile, qui a bien suivi le dossier, est-ce que pour toi, la réforme actuelle est un changement effectivement majeur hein, de l'indemnisation des chômeurs par rapport à ce que par rapport aux réformes précédentes.
Disons que oui, je pense que dans sa globalité, la réforme est un changement très important. En tout cas, une étape très importante parmi une succession de mesures. Bon, il faut rappeler quand même que la dégradation de l'assurance chômage remonte à plus de 25 ans, hein, on peut dire, aux années au début des années 90. Parce qu'à l'époque déjà, les pouvoirs publics avaient réinstauré une dégressivité des allocations. Faut quand même s'en souvenir. Mmh. Depuis deux ans, Emmanuel Macron est arrivé au gouvernement. En septembre 2017, il a déjà commencé par faire passer une loi sur les ordonnances de destruction du Code du travail, parce que c'était quand même la première étape pour aller vers une plus grande flexibilité du marché du travail. Et puis, il devait ensuite, c'était son programme électoral, faire passer des réformes de l'assurance chômage, de la formation professionnelle et des retraites. Donc, il continue, il poursuit son programme. Et si on retourne un petit peu en arrière, alors on se rend compte que depuis deux ans, on a été pratiquement en négociation permanente par rapport à cette question de l'assurance chômage, parce que initialement, le gouvernement envisageait de faire une loi était présentée à l'opinion comme devant permettre de lutter contre la précarité, notamment les contrats CDD à répétition, et puis aussi permettre aux indépendants et aux démissionnaires de pouvoir toucher des allocations chômage.
Je crois que la loi s'appelait la loi pour le choix de son avenir professionnel,
mais il a fallu du temps parce que il y a eu d'abord un simulacre de concertation qui a duré donc de la fin 2017 à peu près à février 2018, donc et qui s'est conclu sur un accord des partenaires sociaux, l'accord national interprofessionnel, donc du 22 février 2018, qui en fait entérine l'idée déjà d'une forte baisse des cotisations sociales et d'un nouveau rôle de l'État dans le cadrage des négociations. Donc c'est marrant parce que avec cet accord national interprofessionnel, bien sûr la CGT était la seule à ne pas l'avoir signé, mais les autres, la CFDT, la CGC et la CFTC l'avaient signé. Et or, maintenant, ces gens-là, ils viennent pleurer en disant « Mais enfin, pourquoi cette réforme ?» etc. Alors qu'ils ont donné toutes les clés, finalement, pour le gouvernement, pour qu'ils puissent faire passer absolument ce qu'ils voulaient. Mais ils ne pensaient pas qu'on allait s'en prendre aussi à leur propre base et notamment au cadre. Bon, ça... mais jusque-là, ils n'avaient rien dit. Et c'était vraiment très important pour Emmanuel Macron de faire croire à l'opinion que cette loi de réforme de l'assurance chômage avait été...
préparé par un accord préalable des syndicats,
voilà, corrigé, élaboré en concertation avec les partenaires sociaux. D'accord. C'était une vaste fumisterie.
C'est un peu des gamins, les syndicats.
On peut le dire, parce que maintenant on voit le résultat, effectivement, le résultat.
Être honnête, Odile, je ne sais pas si tous les syndicats étaient opposés au programme de M. Macron quand il l'a annoncé, hein, c'est-à-dire quand il avait quand même, il avait quand même fortement suggéré que l'État allait s'inviter dans les négociations. Alain, sur cette question.
Non, parce que la réforme, qui est une réforme qui va être très douloureuse pour nombre de chômeurs. Alors le chiffrage, suivant les syndicats, c'est 250 000 à 300 000 personnes qui seraient exclues de l'indemnisation. Et on vient de me dire sur Mediapart, ce serait quasiment le double. En tout cas, ça va être absolument féroce pour les chômeurs. Il faut rappeler qu'il y a seulement la moitié des chômeurs sont indemnisés pour UNIC. Il faut rappeler tout ça, le grand public ne sait
tout,
pas.
Tout compris, hein, y compris la SS, ben, c'est-à-dire que c'est 42% pour la RE.
Par l'UNEDIC, c'est 42%.
Voilà, et l'indemnisation moyenne, bon, on a des chiffres qui varient un peu, mais elle est autour de 1 000 euros. Donc même les chômeurs grassement assistés, etc., et ça peut pas les voir. Il s'agit encore de serrer la vis. Il disait quelquefois, il s'agit grosso modo de motiver les chômeurs en les affamant un peu, soit bien malgré ça, pour leur permettre de traverser la rue plus vite et les obliger à faire le trottoir, c'est-à-dire à accepter n'importe quel boulot, à n'importe quel prix. Non, le fond de la philosophie, entre guillemets, philosophie libérale, c'est ça. Il faut rappeler aussi que tout ça, c'est motivé par le fameux déficit de UNIC. Le déficit, c'est la spécialité depuis longtemps. Alors, suivant les chiffrages, bon, j'ai trouvé sur le site de l'UNIC récemment, le déficit cumulé serait 36 milliards.
Oui.
36 milliards, ouais. Des fois on parlait de 33. Là, sur le site de l'UNIC, je l'ai vu hier, 36 milliards figure quelque chose. Mais bon, c'est un déficit stratégique, parce que quand même, on sait bien que depuis des décennies, le chômage augmente. Par contre, les cotisations patronales n'augmentent pas.
Tout à fait.
Ou alors, il y a des modulations vraiment autour d'un chiffre.
Et là, elles ont baissé. Alors,
évidemment,
elles ont même baissé, là.
Si le nombre de chômeurs augmente drastiquement et que le patronat ne cotise pas, il y a forcément un déficit.
Absolument.
Mais c'est étudié pour. Parce que le déficit permet après de vouloir faire des économies, etc. Quoi. Oui, alors, en plus, on va vers une étatisation, une gestion libérale du chômage. Parce que c'est quand même... Ce que signifie la réforme actuellement, on l'appelle la réforme Macron, c'est la fin du paritarisme.
Oui, tout à fait.
Négociation patronat-syndicat a échoué. C'était étudié pour, dans le cadrage gouvernemental.
Bon, ça, on va y revenir plus tard, mais là, la réforme actuelle, proprement dit, alors, l'effet direct, mais ça qu'on avait déjà vu, c'est effectivement que la réforme passe par décret. Bon, ça, c'était les choses étaient claires. Et alors, au niveau, donc, voilà, 400 000 chômeurs qui, tout d'un coup, ou 300 000 qui seraient exclus de leurs droits, quel est le mode de calcul qui permet d'arriver à ça?
Il y a une modification des conditions d'accès, déjà. Ouais. C'est la plus grosse partie des économies tiennent à ça. C'est qu'on va rétablir, parce que c'était déjà le cas il y a plus de 10 ans, on va rétablir 6 mois de travail à temps plein sur les 2 dernières années pour les conditions d'accès. Enfin, je ne sais pas si c'était exactement pareil, mais ça avait été quand même...
C'était 4 mois.
C'était une des petites choses qui avait été améliorée depuis 10 ans. Hein.
Oui, pour les précaires.
Donc là, on revient à 6 mois et le rechargement des droits ne sera possible que si on a retravaillé également 6 mois à temps plein. Enfin, l'équivalent ou l'équivalent...
Ah oui, 6 mois à temps plein, oui.
Oui. D'accord. Ce qui donne, et puis après surtout il y a un nouveau mode de calcul des allocations qui fait que on va pour toutes les personnes plus ou moins en qui font des CDD à répétition en emploi discontinu ou en activité réduite, hein, on va diminuer leurs allocations par 2 ou par 3, parce que par exemple, je prends un exemple. Sur les 2 dernières années, mettons qu'une personne ait travaillé, elle a travaillé l'équivalent de 6 mois à temps plein, mais sur 1 an. D'accord? Bon, ben, pour calculer son allocation, avant, on prenait tout ce qu'elle avait gagné, on le divisait par 6 fois 30 jours, ce qui fait 180 jours. Hein. Mais là, maintenant, on va diviser par 365. puisque si elle a fait les 6 mois, mais sur un an, hein, donc il y a un an décalage entre son entrée dans les droits et la fin de son contrat, la fin de son dernier contrat, enfin, sur cette durée-là,
elle a gagné
l'équivalent de ce qu'on gagne en 6 mois, mais elle l'a gagné pour l'emploi, ce sera sur un an.
Donc elle sera indemnisée sur un an par rapport à ce qu'elle a gagné sur 6 mois.
Par 365 jours ou par 12 mois pour lui donner son allocation.
Pour bien comprendre, il y aurait une proportionnalité entre ce qu'elle a gagné et la durée de son indemnisation, en fait, finalement. C'est-à-dire entre ce qu'elle a cotisé.
Ce qu'elle a gagné est ramené à une durée d'un an.
C'est ça, voilà.
Alors qu'avant, elle aurait été ramenée à 6 mois.
D'accord. Et d'accord, donc du coup, ça fait quand même de sacrés dégâts. Alors, le plafonnement de l'indemnité des cadres.
Oui, ça, c'est une petite concession qu'a fait Macron parce qu'il était le président des riches. Alors, pour les très hauts revenus, très hauts salaires, bon, il a réduit quelque peu, mais ça touche 0,5% des chômeurs. Et encore, c'est pas valable pour les cadres très supérieurs, quand même, de plus de 50 ans. Bon, moi, je suis pas pour qu'on réduise
57 ans. Non, mais je pense que ça. Non, ils disent quand même que ça va toucher 10% à peu près de la population.
Ah, moi, j'ai vu 0,5%.
C'est énorme quand même.
Alors là, on est un peu. Enfin,
non, mais en tout cas, ça va toucher. C'est une minorité de chômeurs. Les cadres supérieurs qui avaient des indemnités correctes, ils n'étaient pas pressés de retrouver du boulot. On dit d'autant qu'ils avaient un bon carnet d'adresse, comme on dit. Donc, c'était pas.
C'est ça. Plus les indemnités sont élevées, et moins les gens.
Moins on est pressé de chercher un boulot. Moyen de choisir, de faire fonctionner son carnet d'adresse et tout ça.
Alors on disait que c'était quand même la France était l'un des seuls pays qui ne plafonnait pas ses indemnités par rapport, par exemple, à la Belgique qui sont plus longues, dont la durée d'indemnisation est plus longue, mais par contre où c'est beaucoup plus réduit.
Il y avait un plafond, il était élevé, mais je ne m'en souviens pas.
Oui, il y avait un plafond à 6 000 euros à peu près. Hein.
Oui, un plafond à 6 000 euros, mais enfin justement qui est très élevé, beaucoup plus élevé que les pays européens, ce qui compte. Mais bon, sur le principe.
Et moi je serais pour tendance à l'égalisation. Non, parce que quand quelqu'un, si un gros salaire, parce qu'il est beaucoup plus productif quand il travaille, mais quand il ne travaille pas, on devrait, grosso modo, aller vers quelque chose d'égalitaire. Comme pour les retraites. Moi, je serais retraite égale pour tous.
D'accord.
Oui, okay. On fera une autre émission là-dessus.
Et donc, la troisième chose, c'est les bonus-malus.
Oui.
Donc, cette espèce de serpent de mer qui revient régulièrement dans la négociation.
Alors là, c'est un point particulièrement compliqué, je crois, parce que le gouvernement s'était engagé, il fallait qu'au moins pour la façade, afficher des mesures qui ont l'air de diminuer la précarité. Mmh. Bon, moi, ce que j'en pense, en réalité, il s'agit, le taux de cotisation, des cotisations patronales est actuellement à 4%. Ils le font varier entre 3 et 5%.
Ouais. Bon. En fonction du type de contrat. En fonction du type de contrat.
Et en fonction du taux de séparation dans la branche. C'est-à-dire que ils vont faire une moyenne du nombre de gens qui vont s'inscrire en fin de CDD, qui vont s'inscrire à Pôle emploi.
D'accord.
Dans un secteur. Rapporté au nombre de salariés salariés en CDI. Donc, ils aboutissent à un taux de séparation qui, évidemment, une donnée qui varie d'une branche à une autre. Hein. Il y a pas deux secteurs qui auront la même chose. Et à partir de là, il faut varier. Il y a un bonus pour les bons élèves, les bonnes entreprises vertueuses qui n'emploient pas trop de gens en CDD, elles vont passer à 3%. Et il y a un malus, les autres vont aller à 5%. Donc il y a une petite variation d'1% en plus ou en moins. Alors, le bonus, à quoi il sert le bonus? Le bonus, il sert strictement à rien, parce que s'ils voulaient réellement renflouer les caisses de l'assurance chômage, ils n'ont pas intérêt à faire un bonus. Mais ils le font quand même. Pourquoi? Parce que c'est le moyen, premièrement, de faire baisser les taux de cotisation dans la réalité, c'est-à-dire il n'y aura pas d'augmentation des taux, et puis et on va même aller plutôt vers le bas. Deuxième chose, c'est un moyen, parce qu'un beau jour, personne n'y comprenne plus rien, parce que toutes les branches feront leur petite cuisine dans leur coin, mais pas deux secteurs auront les mêmes taux de séparation. Et puis la troisième chose, c'est que de toutes les façons, le malus à 5%, il y a de bonnes chances que ce soit du pipeau. Tout simplement parce qu'il y a une bonne moitié des salariés qui sont déjà exonérés du point de vue des cotisations patronales. Voulu réellement mettre un malus, on aurait dit, ces entreprises-là, elles dépassent un peu la limite par rapport à l'emploi, au recours au CDD. On va leur supprimer leurs exonérations de cotisations. Là, ça aurait été du sérieux. Oui, mais on n'a pas fait ça.
Oui, c'est parce que oui, ça aurait été un
donc,
chantage plus.
Donc, ils ont les exonérations. Voilà, et ils ont plus de la moitié de leurs salariés qui sont exonérés. Donc, à quoi ça rime ce malus? J'en sais rien.
Mais est-ce qu'on...
ça rime à casser un système interprofessionnel.
Voilà. Mais voilà, et est-ce qu'on peut à différencier en fait le système interprofessionnel? Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer un système de bonus-malus par entreprise, parce que là, c'est par secteur, puisque alors même si on sait que certains secteurs effectivement comme la restauration sont les grands ou même le secteur du BTP hein, sont des grands utilisateurs de contrats courts. Est-ce que ça a plus d'efficacité que qu'un employeur se sente directement personnellement impacté?
Non, compte tenu des enjeux et des problèmes en cours, tout ça, c'est, comment dirais-je, c'est un peu marginal. C'est la surface des choses. Etc. Pour ce qui est de la méthode de calcul des cotisations patronales. Cotisations patronales sont calculées sur la masse salariale. Mais il se trouve qu'il y a des entreprises qui font d'énormes gains de productivité, qui font beaucoup de profits, etc., qui ont peu de masse salariale. Les entreprises high-tech, par exemple, moi je suis dans une commune où il y a Sanofi, laboratoire pharmaceutique, mais il y a très peu de personnel, c'est très robotisé, automatisé, etc. Il faudrait totalement changer le mode de calcul des cotisations patronales et considérer non la masse salariale, mais la valeur ajoutée. Et les entreprises high-tech, il y a très peu de masse salariale, beaucoup de valeur ajoutée. Ça aussi, c'est comment dire, une façon d'appréhender les choses que même les syndicats ont du mal à appréhender ce genre de trucs. C'est pourtant assez fondamental.
Donc voilà, moi ce que je dirais en conclusion, c'est une façade pour faire croire qu'on lutte contre la précarité, mais c'est pas vrai.
D'accord.
Il y a le fameux lapsus de Mme Pénicaud qui a été. C'est une réforme
rigolo,
pour
ça.
La précarité.
Oui.
Ok, et bien on s'écoute une petite musique et on reprend tout de suite après. Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'Agir Ensemble contre le chômage, avec l'équipe d'Agir Ensemble contre le chômage. Nous sommes ce soir avec Odile Merkling et Alain Véronèse, qui sont venus nous parler évidemment de la réforme de l'assurance chômage, mais qui viennent aussi pour parler du livre « Pour une sécurité sociale du chômage ». Donc ce livre qui est paru aux éditions Sileps en 2019, vient bien à propos puisqu'en fait il permet de prendre un peu de hauteur et de remettre en fait la question de l'indemnisation des chômeurs dans une perspective historique. Et alors notamment il y a tout un premier chapitre que je recommande particulièrement pour les jeunes générations, c'est-à-dire qui explique pourquoi l'UNEDIC et l'assurance chômage ne sont pas nés avec la sécurité sociale, mais sont nés juste un peu après, en 1967, et que qu'effectivement il y a une différence.
58. L'UNEDIC 58.
Hein. L'UNEDIC 58. Qu'est-ce que je raconte? Oui, pardon. 45 la sécurité sociale et pardon.
Et 1958 pour
l'UNEDIC. Pardon. Merci Odile. Et oui. Et pourquoi la philosophie en fait est un peu différente dès l'origine, puisque on sort en fait du système du système qui était conçu en 45 où les deux tiers où la sécurité sociale était gérée par les salariés pour les deux tiers,
voilà.
Alors qu'on rentre dans un système paritaire.
Oui.
L'UNEDIC n'est pas une branche de la Sécu parce que c'était conçu en 1945. En 1945, il n'y a pas de chômage. Après la guerre, il y a du boulot pour tout le monde, la reconstruction, etc.
Il paraît que ce n'est pas tout à fait exact hein, et qu'il y avait quand même du chômage, mais apparemment, le gouvernement de l'époque et de Gaulle n'ont pas voulu,
le chômage
n'ont
à 45,
pas voulu ça mettre en place la
chômage. Ça devait être marginal, le chômage à 45. Jusqu'aux années 60.
Oui, enfin, tout de suite après, en 45, il y a eu
un boulot.
Il y avait des gens dans la nécessité au moins.
Après la guerre, généralement, il y a du boulot parce qu'il faut reconstruire. Quoi. On dit bien quelquefois, une bonne guerre et ça repartirait.
Ouais. Mais alors, du coup, la sécurité sociale a vraiment été faite dans une logique, alors juste d'après-guerre, avec le Parti communiste qui était quand même très fort. Et puis, bon, on a créé quand même des droits sur le système de la cotisation. Bernard Friot nous en parlerait beaucoup mieux, et donc de socialisation hein, des richesses créées et d'une redistribution. Or, la convention UNEDIC, le problème, c'est qu'en fait, dès le départ, on est à 50-50 patronat salariat, et on rentre dans une logique, la logique paritaire, qui veut qu'en fait, on soit...
ce qui vient
d'une renégociation. Tout à fait, ce qui vient de disparaître.
Et ça veut dire quelque chose. Hein.
Mais alors, oui.
Ben, je crois que ce qui est important, c'est deux trucs. La première chose, c'est que en 45, la sécurité sociale avait été conçue sur des principes de base qui étaient ceux de solidarité et de mutualisation. Hein. C'est-à-dire que on considérait à l'époque que chacun dans toutes les classes sociales, chaque individu peut avoir autour de lui un de ses parents, un conjoint, un enfant, quelqu'un qui tombe malade, qui a besoin d'être hospitalisé, ou bien même qui devient dépendant pour les parents plus âgés, dont il va falloir s'occuper. Et ben c'est en fin de compte ce raisonnement-là, c'est que je veux dire la maladie, la dépendance, tout ça, ça peut arriver à tout le monde. On peut faire le même raisonnement, en fin de compte, pour le chômage. Chacun peut avoir un enfant, un conjoint au chômage, etc.
Justement, donc, c'est la grande différence voilà, entre les deux, c'est qu'il y a une universalité des droits, par exemple pour l'assurance maladie, qu'il n'y a pas du tout, en fait, pour le chômage. Finalement.
C'est-à-dire que, oui, au départ, il y a eu quand même ce principe de mutualisation entre des catégories sociales différentes qui faisait qu'il y avait quand même... tout le monde avait les mêmes conditions pour quand on était hospitalisé, pour être pris en charge, etc. Enfin, il y avait une base commune très, très large. Et puis, il y a même certaines catégories de la population qui ont été intégrées dans la sécurité sociale sans jamais avoir cotisé au départ.
Oui, tout à fait.
Donc, il y avait quand même une très large solidarité. Et puis, il y avait effectivement une gestion qui était assurée aux deux tiers par des représentants des salariés. Donc, je crois que tout ça, c'est le patronat très très vite. Hein, il a admis ça tout de suite après la fin de la guerre parce que il avait collaboré, il était discrédité dans beaucoup d'endroits, etc. Mais dès qu'il a pu, il a voulu revenir en arrière là-dessus et ce qu'il a voulu instaurer, il a voulu instaurer un système assurantiel qui lie justement les prestations de chômage à aux cotisations qui ont été versées. Donc c'est tout à fait autre, c'est déjà vraiment autre chose que la sécurité sociale.
Qui individualise
mais
les droits.
La CGT à l'époque avait un projet de cinquième branche, la sécurité sociale chômage, c'est-à-dire une cinquième branche de la sécurité sociale qui était pour indemniser les chômeurs.
Alors du coup, il y a deux choses qui apparaissent. Alain, tu
veux... Mais je veux dire. Là, c'est vrai qu'on a assisté à une évolution de l'esprit, parce que ce principe de solidarité, la libération, la charte de résistance, etc., ça a totalement disparu. Nous sommes quand même, on peut l'installer dans une société assez férocement individualiste et la solidarité entre les groupes sociaux, ou un machin aussi ringard que la conscience de classe, c'est quelque chose qui s'effrite. Il faut le dire aussi, Macron, c'est finalement la conclusion du tournant libéral des années 80 avec Reagan et Thatcher. Hein. C'est la continuité. Parce que moi, j'ai vécu ça. Dans les années 70, on pouvait quand même se permettre de vivre relativement confortablement dans les marges de la société en travaillant assez peu, quoi. C'est évidemment intolérable pour le capitalisme, pour le libéralisme. Et il y a eu
qu'il y ait beaucoup plus de gens qui sont aux marges de la société et ne gagnent évidemment pas leur vie.
On peut les choisir. Il y a des marges relativement confortables. Et quand j'étais allé en groupement devant l'UNEDIC il y a quelques jours, il y a quelqu'un de la CGT intérim qui disait l'intérim choisi, c'est fini. Parce qu'il y a beaucoup de gens, etc., qui avaient choisi de l'intérim ou qui avaient... une allergie au travail, c'est un livre célèbre, ou qui, se comportait aussi peu que possible avec le salariat. Et ça a bien changé. Il y a eu une évolution culturelle, il fallait absolument resserrer la vis. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi on est en train de diminuer fortement les revenus des chômeurs pour qu'ils soient absolument contraints d'accepter des boulots mal payés, absolument dégueulasses, alors qu'on pourrait utiliser les gains de productivité pour travailler beaucoup moins, travailler tout, etc. Mais ça sera peut-être la conclusion de notre intervention quand on parlera de nos
proposition, oui. Alors, revendication.
Mais moi, je voudrais dire que il faut faire très attention aux mots. les mots, parce que quand le gouvernement parle de solidarité, lui, il parle, en réalité, il en parle au sujet de l'aide sociale qui n'est rien d'autre que de l'assistanat.
En fait,
hein. Donc, les mots qu'on emploie sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre. Et on a une vraie guerre de la communication, parce que pour gagner la bataille de l'opinion, les néolibéraux, en fait, sont en train de récupérer et de détourner toutes les aspirations, les revendications, et notamment regardez l'intitulé de la loi Pénicaud, c'est quand même incroyable, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Vous voyez, donc ils jouent sur tout
alors qu'on va réduire les droits.
Et alors ça va même jusqu'à faire croire. Moi j'ai bien regardé là le document issu de Pôle Emploi, faire croire que les salariés qui sont en souffrance dans leur entreprise, voudraient soit démissionner, soit obtenir une formation pour se reconvertir dans un autre secteur, soit devenir indépendant, etc. Eh ben, on va leur faire croire qu'ils vont pouvoir le faire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, à l'issue de ça, ils vont se retrouver dans le système des petits boulots à répétition et de la flexibilité. Donc attention, il y a une énorme tromperie là-dessus. Et nous, ce qu'on voudrait dire en parlant des propositions d'AC, ce qu'on voudrait expliquer, c'est que aujourd'hui, c'est l'occasion ou jamais, une occasion qui ne reviendra sans doute pas avant très longtemps, de revenir sur ce débat autour de la question de qu'est-ce qu'on veut pour l'indemnisation du chômage, quel système on veut. Et si on remet pas sur le tapis ce débat-là, c'est foutu.
Alors j'imagine que la loi, c'est que ce qui a donné le nom à cette loi, c'est justement la possibilité d'ouvrir l'indemnisation aux indépendants, par exemple, qui évidemment est très très marginale. Mais c'est vrai que il y a effectivement un glissement sémantique, parce qu'on est passé de la solidarité, qui était le principe donc de la sécurité sociale, à l'assurance finalement avec l'UNEDIC. Et aujourd'hui, c'est la réforme de Macron via l'étatisation vise plutôt finalement à abaisser les droits et à
donner l'assurance chômage à des assurances privées.
Alors
parce que c'est ça qu'il y a derrière et qui est pire de tout.
Alors, je crois qu'on va avoir une privatisation de l'UNEDIC, c'est quelque chose en cours, et d'étatisation d'abord. Parce que la suppression des cotisations salariales, a priori, on se demandait pourquoi c'est varié les cotisations chômage.
Alors pour expliquer la réforme de Macron, il avait dit quand même donc suppression des charges des charges patronales sur le chômage. Donc
c'était les cotisations salariées.
Voilà, les cotisations
mais
salariées.
Les exonérations de cotisations patronales vont assez loin puisque ça va jusqu'à 2,5 fois le SMIC.
Voilà. Ce qui permet à l'État de s'ingérer dans la gestion du
CSG.
Donc de fiscaliser l'indemnisation du chômage et de prendre la main et de fait en fait de pouvoir fixer lui-même l'indemnisation des chômeurs finalement.
Oui, bien sûr. C'est ça.
Et donc du coup ce système là c'est ce qu'on voit aujourd'hui puisque on va pouvoir dans l'avenir c'est par décret qu'il pourra modifier l'indemnisation.
Ah, tout à fait. La loi Pénicaud autorise effectivement l'État. Donc, de toute façon, l'État a un nouveau rôle. Il donne un cadrage à la fois financier et en même temps l'orientation en ce qui concerne la modification des paramètres de l'indemnisation du chômage.
Voilà.
Donc, après, les partenaires sociaux n'ont plus qu'un rôle de façade. Ils ne peuvent plus décider de rien, quasiment.
Et est-ce que ça, c'est définitif ou est-ce que la prochaine convention UNEDIC pourra être de nouveau discutée ou...
Je crois qu'il faudrait un sacré chambardement pour qu'ils reviennent là-dessus. Ils nous ont fait passer l'idée que le système était en faillite, etc. Alors, il y a un autre glissement sémantique qui est très intéressant parce que au même moment, quand ils ont fait passer la loi... Donc, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le 5 septembre, une semaine après, Macron a fait des déclarations fracassantes sur « on va mettre en place un grand plan de lutte contre la pauvreté et on va mettre en place un RUA, Revenu Universel d'Activité », ce qui pouvait paraître très alléchant. Alors, certains médias ont renchéri en disant « voilà, ça serait autour de 800 euros, ça serait un revenu universel, etc. » Bon, et c'est pareil, les néolibéraux sont en train de complètement détourner certaines aspirations qui existent dans la population à un revenu universel pour tout simplement démanteler l'assurance chômage. Donc c'est embêtant.
Le revenu universel de Macron, c'est un détournement politique et sémantique de ce que le cas appelle le revenu de base ou le revenu universel, etc. Bon, je reviens pas là. Moi, je suis membre du BFRB, je milite pour un revenu de base. C'est-à-dire toute personne toucherait un revenu de base. Bon, donc, on discute le montant, mais pour moi, il ne devra pas être inférieur au seuil de pauvreté autour de 1 000 euros. Mais les riches, comme les pauvres, etc., on pourrait compléter par revenu. Grosso modo, ce serait l'idée de redistribuer sur l'ensemble de la société les gains de productivité qui sont énormes et qui, pour le moment, sont confisqués pour les dividendes des actionnaires. À mon avis, c'est une idée qui doit faire son chemin. Et si on avait, si la plupart des gens avaient un revenu de base relativement conséquent, évidemment, ça ne plairait pas au patronat, parce que le pouvoir de négociation des salariés serait fortement augmenté. Donc, ce que nous concocte Macron, dont on ne connaît pas encore véritablement les concours, est tout sauf un revenu de base. Mais il a récupéré cette idée qui était dans l'air du temps pour en faire quelque chose de férocement libéral, quoi.
Alors, du coup, les réformes de Macron, elles vont de pair aussi avec une réforme de l'aide sociale, en fait, hein, des minima sociaux qui serait dans les cartons. Donc, il a annoncé 7 milliards d'économies, quand même, sur l'aide sociale. C'est, ça paraît énorme. Et sont dans le viseur, donc les appels, on l'a vu, mais sont effectivement le RSA via une réforme de la prime d'activité, en fait. Il semblerait dans la prochaine étape sera de faire à la fois dans un premier temps de faire basculer une partie des chômeurs sur le RSA et dans un deuxième temps
le futur RUA.
Effectivement de réformer ce fameux RSA. Ouais. Donc,
voilà. Ben, on est toujours dans un affichage, en tout cas sur le plan du vocabulaire, parce que c'est évident qu'on est actuellement en train de il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont être éjectées de l'assurance chômage, donc de l'ARE, qui vont se retrouver dans les minima sociaux. Mais là, on est sur un glissement au niveau du vocabulaire, parce que ce RUA, ce serait en fait, et je crois que le gouvernement le conçoit comme ça, un condensé de tout ce qu'il y a de plus négatif à la fois dans le RSA, puisque le RSA c'est quelque chose qui est familialisé, donc qui est attribué en fonction des ressources de la famille. En même temps, ce serait quelque chose qui serait conditionné par la recherche d'emploi, c'est-à-dire que dans les nouveaux décrets, et ça on en a pas parlé, mais il y a eu une étape après l'adoption de la loi Pénicaud. Il y a eu un décret qui durcit considérablement les contrôles et les sanctions à l'égard des demandeurs d'emploi. Et ce qu'il y a dans ce décret en plus, c'est que les contrôles vont concerner aussi les allocataires du RSA et de l'ASS. Donc, on voit très bien que là, ils veulent vraiment...
Mettre les gens au travail.
Ça, voilà. En plus, par rapport à l'ASS, bon, l'ASS rentrerait aussi dans le RUA, mais il n'y aurait plus forcément les cotisations pour la retraite. Donc, vous voyez, tous les aspects les plus négatifs, en fin de compte, vont se retrouver condensés sur ce machin-là, dont on veut faire une espèce d'allocation universelle, mais...
Sur le modèle anglais, en fait.
Mais là, il semblerait quand même que c'est là qu'ils ont un peu des difficultés à faire passer, parce que c'est pas très logique et pas très cohérent en même temps, puisque on était sur un système dualiste, hein, avec d'un côté l'ARE, de l'autre côté le RSA. Là, en fin de compte, on irait vers une espèce de réunification, mais vers le bas de tout ça.
D'accord. Oui, quand tu dis dualiste, c'est le RSA pris en charge par l'État l'ARE pris en charge par l'UNEDIC, et là il y a un mélange des genres qui fait que voilà. Alors tu parlais Alain de privatisation de l'UNEDIC. Qu'est-ce que tu entends par là? Parce que on sait bien que l'UNEDIC est extrêmement endettée et qu'elle peut s'appuyer sur les marchés financiers, comme toutes les administrations publiques.
Donc une partie des ressources de l'UNEDIC qui sert à indemniser les chômeurs sera de la CSG, donc ça viendra de l'État, c'est l'impôt, etc. Et déjà pour l'emploi, il y a une partie notable du personnel qui n'a pas le statut de fonctionnaires fonction publique. Ceux qui étaient fonctionnaires, on peut le garder, mais il y a...
C'était l'ANPE. Pas à la CEDIC.
Oui, l'UNEDIC, ça y est, c'est fini.
Il y a une partie du personnel de l'UNEDIC qui est sous statut privé.
Oui.
Il y a une partie importante qui est tendanciellement croissante, évidemment. Et puis aussi, le placement des chômeurs passe pas tout par Pôle emploi. Il y a des opérateurs privés, etc., qui placent les chômeurs. Mais évidemment, ils prennent les meilleurs, puisqu'ils sont payés au rendement, etc. Et les pas vendables, les pas beaux, etc., on les laisse au Pôle emploi. Bon, ils risquent de se retrouver au RUA dans pas longtemps, etc. Moi, je dis que tendanciellement, c'est dans la logique du capitalisme libéralisme, même l'UNEDIC, c'est-à-dire l'indemnisation des chômeurs, va être confiée à une officine privée, qui sera payée au rendement.
Oui.
Et il y aura tant de trucs, il faudrait qu'il n'y ait pas tant de chômeurs, etc. Et le chômeur pas beau.
C'est déjà un peu le cas, hein, avec le nombre de dossiers qu'on a traités.
Voilà. Et vraiment, ce sera vraiment du chiffre. Il y aura une telle somme d'argent, il faudra remplacer les chômeurs, etc. Il n'y aura aucun recours. Mais c'est dans la logique, comment dirais-je, de l'économétrie, du libéralisme et du capitalisme. Alors, le jour où l'indemnisation et la réinsertion des chômeurs sera confiée aux entreprises privées, on aura beaucoup de soucis à se faire. Il y a pas mal de bras cassés et de nombreuses personnes qui vont être laissées sur le bord de la route, c'est certain.
Alors, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que, donc, il y a pratiquement la seule chose positive dans les annonces du 18 juin du gouvernement, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement des chômeurs, parce que ils font une grosse campagne pour dire voilà, on va embaucher plusieurs milliers de personnes pour à Pôle emploi pour accompagner les chômeurs. Ouais. Alors, il faut prendre ça avec un bémol, dans le sens où ça fait quand même pas mal d'années. Ça fait quand même 10 ans que l'unification de la NPE et des ACEDIC a eu lieu. Et donc, pendant ce temps-là, ben, la dégradation, elle a quand même été très, très forte. C'est-à-dire que il y a eu, en même temps, la sous-traitance du placement des chômeurs. Il y a eu, la dématérialisation, hein. La plupart des dossiers sont numérisés, informatisés, etc. Bon, ce qui pénalise des millions de gens, puisqu'il y a des gens qui ne savent pas se servir d'Internet, qui se débrouillent pas bien avec les sites, etc. Il y a en plus une très forte déshumanisation des relations, hein. Et donc, moi, j'ai rencontré des personnes, le seul rapport qu'elles ont avec Pôle emploi, c'est quand Pôle emploi leur a envoyé une lettre les menaçant, enfin, leur annonçant, oui, qu'elles allaient avoir un contrôle. L'accompagnement, elles connaissent pas, parce que il y a des conseillers à Pôle emploi, ils ont 400, 500, 600 dossiers de demandeurs d'emploi à accompagner. Donc là, on a une vaste fumisterie qui consiste simplement à reculer un tout petit peu sur les baisses d'emplois qui ont déjà eu lieu depuis 10 ans. Voilà.
Oui, alors d'autant que Macron prévoit une baisse à nouveau des emplois, et puis il y a quand même les contrôles aussi, ces contrôles qui au départ étaient expérimentaux et qui pompent des ressources à l'UNEDIC au détriment de l'accompagnement.
Il y a une expérimentation du tableau de bord déjà. Mm-hmm. Donc chaque demandeur d'emploi est censé tenir un tableau de bord avec indiquant enfin toutes ses recherches d'emploi. Donc conserver les mails, les lettres qu'il a écrites, les lettres de motivation, les réponses des entreprises. Donc il faut qu'il se constitue un fichier, hein, avec conserver toutes ces, parce que c'est on très, peut à tout moment Pôle emploi peut lui envoyer un contrôle, c'est-à-dire lui exiger de produire les preuves de ses recherches d'emploi.
D'accord.
Voilà.
OK. Eh ben, on va se réécouter, on va faire une pause et puis on va enfin parler de comment sortir.
Don't stop.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 de la Monde FM et c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission d'agir ensemble contre le chômage avec l'équipe d'AC. Ce soir, nous recevons Alain Véronèse et Odile Merkling pour nous parler du livre Pour une sécurité sociale du chômage. Alors, pour reprendre cette émission, on va parler du livre, hein, et notamment d'un des encadrés qui s'intitule Mauvais compte et médisance de Madame Pénicaud. Alain, est-ce que c'est toi qui as rédigé cet encart?
Oui, c'est moi qui ai fait ça. J'ai passé. En fait, c'est Madame Pénicaud, elle est très soucieuse de faire que les chômeurs n'aient pas des indemnisations trop élevées. Mais comme d'abord, elle a été exemptée de l'impôt sur la fortune, ce qui lui a fait économiser 62 000 euros, soit 5 années de SMIC. On voit que la dame, elle est moyenne. D'autre part, elle a été DRH chez Danone. Et après avoir licencié plus de 900 personnes, entre 2012 et 2014, elle a empoché 4,7 millions d'euros. Hein, à part ça, on sent que
elle est bien placée pour parler des abus des chômeurs,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça. Elle se scandalisait que enfin, les chômeurs en alternant des périodes de travail et des périodes de chômage pouvaient toucher plus qu'ils avaient travaillé à plein temps, etc. Mmh. Bon, elle avait fait scandale. Des calculs scientifiques. Dans le meilleur des cas, tout à fait improbable, ça faisait 1700 euros par mois. C'est, oh, c'est énorme. Mmh. Un chômeur partiel toucherait 1700 euros par mois. Ouais. Totalement inadmissible pour cette dame qui a touché des millions d'euros après avoir licencié des centaines de personnes. Ouais. Donc, il faut renvoyer les gens là où ils sont. Il faut... Ils n'ont pas, les moyens de nous faire la morale.
Et puis 1700 euros, ça fait quand même beaucoup pour un chômeur. Hein. À mon avis, c'est pas n'importe quel chômeur.
Alors, mais c'est les règles concernant les salariés, les chômeurs qui sont en activité réduite, c'est-à-dire qui alternent finalement.
Oui, on a compris,
Les petits boulots.
Mais même ça, on peut.
Donc, il s'agit plus en réalité d'une alternance que d'un cumul. Mais en même temps, les assistantes, ce qui est positif quand même là dans cette histoire, c'est que les assistantes maternelles et les salariés ayant plusieurs employeurs, dont bien évidemment la plupart sont des salariés des services à la personne, vont être miraculeusement épargnés par la baisse c'est des bien. Allocations chômage. Faut dire qu'ils en touchaient déjà pas beaucoup. Hein. Mais ces dernières années, ces catégories avaient effectivement réussi à pouvoir cumuler leurs allocations avec un salaire parce que on a très très grand besoin des assistantes maternelles, compte tenu de l'insuffisance des crèches, compte tenu que c'est quand même elles qui permettent à beaucoup de femmes d'aller travailler, donc d'assurer la garde des enfants.
Les femmes de la bourgeoisie qui ont besoin de la garde d'enfants.
Et donc, finalement, eh bien, la règle, quand elles perdent un de leurs emplois ou la garde d'un enfant, eh bien, on va la règle de l'activité conservée et de la possibilité de cumul va rester. Voilà. Mais c'est parce que les assistantes maternelles se sont particulièrement mobilisées. Ce sont les gilets roses et qui ont d'ailleurs manifesté certains jours avec les gilets jaunes.
Tout à fait, on s'en souvient très bien.
Alors comme quoi ça sert à quelque chose. Et les intermittents également, avec un accord en janvier, au mois de janvier 2019, ont réussi à faire un statu quo pour leur statut.
Tout à fait.
C'est un statu quo peut-être bien temporaire, quoi.
Alors, la suite va nous le dire, hein, et puis on attend la suite. Mais tout de même, il y a quand même des débats profonds qui traversent AC. Alors, c'est tout un chapitre du livre hein, sur les propositions d'AC, et pas qu'AC d'ailleurs, hein, qui traverse toute la gauche, sur l'avenir, en fait, de la sécurité sociale du chômage. Alors, juste une question comme ça... un peu provocatrice, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs propositions, que le débat est un peu... Est-ce que le débat à l'intérieur d'AC passerait par entre ceux qui sont pour du travail, donc par exemple une baisse de la durée du travail, pour du travail pour tout le monde, ou alors un revenu de base, c'est-à-dire une fin
tout,
du travail, ou est-ce que... Voilà, ou est-ce que c'est des mixtes
non, mais il y a encore des débats à l'intérieur d'AC, c'est tant mieux, autour du revenu de base, par exemple.
Ça
moi,
se voit.
Moi, je suis plutôt pour, et Odile, malheureusement, elle est contre, mais sûrement que je vais
d'avis. Là, vous avez une proposition, c'est entre 500 et 850 hein, des revenus de base, mais qui serait... qui ne se limiterait pas à ça, qui serait une indemnité...
Mais dès 1993 et 14, quand on a créé AC, déjà, on revendiquait les 32 heures hebdomadaires. Compte tenu des gains de productivité aujourd'hui, ça pourrait être beaucoup moins. Mais je l'ai dit hier, il y a quelques jours, devant les syndicats, etc., si on ne parle pas de réduction de travail, c'est-à-dire partage du travail et des richesses, c'est le patronat, le vent en poupe, il va utiliser l'armée industrielle de réserve, etc. Le chômage, c'est ce qui fait la force du MEDEF. Oui. Pour changer sur les chômeurs, il faut partager le travail et le revenu. Mais je trouve que la gauche, ça existe encore, je sais pas, ou les syndicats ont abandonné cette revendication absolument essentielle de réduction du temps de travail.
Absolument.
32 heures, voire moins, etc. Parce que sur l'utilisation, enfin, vraiment les
gars. Pas la France insoumise, hein. La France insoumise dans son dernier
programme. Oui, ils en parlent un peu, mais enfin, c'est pas le produit en tête de gondole, quand même, hein, dans leur campagne électorale. Alors nous, on défend depuis maintenant 93 une réduction du temps de travail. Ça paraît absolument évident. En plus, c'est une revendication séculaire du mouvement ouvrier, la réduction de travail. Hein,
mais qui a déjà eu lieu en 45, qui a eu lieu, enfin, sur une tendance historique longue, on est plutôt sur une tendance à une réduction du temps.
Contrairement à ce que disait Macron, le 1er mai, c'est pas la fête du travail. C'est la fête de la réduction de travail, c'était la fête des ouvriers qui voulaient réduire le temps de travail et améliorer leur salaire.
Puis, condition
de travail à l'époque. Chicago, 1900, je sais pas quoi, c'était pas la fête du travail. De ce côté-là, Macron fait un mensonge et une imposture de plus. Alors on défend réduction de travail aussi, et depuis toujours, 93-94, on voit pourquoi les chômeurs devraient vivre avec des revenus de misère qu'on est en train de réduire, etc. On revendiquait le SMIG. avec ou sans emploi, le SMIC pour tous.
Oui, c'est ça.
C'est une de leurs revendications canoniques, avec quatre arguments, à mon avis, c'était la route articulée entre eux. Mais le premier, c'était que, sauf à reporter entièrement le chômage sur la faute des chômeurs, Macron est en train de le faire, mais même un libéral féroce aurait du mal à le dire, ou à l'argumenter. On voit pourquoi un chômeur devrait vivre avec moins considéré comme un petit salaire permettant de vivre chichement. Oui, avec ou sans travail, il faudrait au minimum le SMIC, parce que ça permettrait déjà d'avoir quelque part le choix de son futur boulot et de ne pas être obligé d'accepter n'importe quoi. Le contraire de ce qu'il fait en même temps. Et aussi, on avait dit, quelquefois, il y a des en dehors ou à côté du salarié qui a revenu minimum, il y a des inventions sociales qui se font, l'invention de nouvelles façons de vivre, et quelquefois, avec moins d'argent, etc., on peut sortir un peu du capitalisme ou de la dictature de la marchandise. Mmh. On voulait, ne pas sortir de la misère avec un SMIC. De cette façon, ce revenu SMIC, etc., c'est aussi une capacité d'inventer de nouvelles façons de vivre, etc. Et on disait quelquefois, nous voulons de l'argent pour inventer un nouvel usage du temps qui ne soit pas seulement soumis à la rentabilité capitaliste, etc.
Et c'est bon pour la consommation.
Le temps, c'est de l'argent, dit des capitalistes. Nous voulons de l'argent pour essayer d'utiliser un peu autrement notre temps. Ce sont les revendications canoniques d'AC. Mais sur le revenu de base lui-même, on va dire, Odile, la discussion est en cours à l'intérieur
d'AC. Oui, la discussion, parce que, effectivement, il y a toujours eu dans AC la revendication d'un revenu personnel garanti au niveau du SMIC pour des 16 ans, avec ou sans emploi. Mais je pense qu'à l'époque, on était surtout sur la revendication du revenu de remplacement et pas tellement, du revenu de base. Et puis, après, il y a eu la continuité des droits sociaux sur laquelle on a beaucoup discuté, notamment les droits à couverture maladie et cotisation de retraite pendant les périodes de chômage, parce que ça, c'est un énorme problème, et c'est ça qui fait que les caisses de retraite se vident aussi. C'est la question des années de retraite qui sont des années de chômage plutôt qui sont très peu prises en compte pour la retraite. Puis après, il y a eu un affinement parce que après, il y a eu la coordination des intermittents et précaires qui a élaboré un nouveau modèle pour les salariés en emploi discontinu.
C'est quelque chose de très important puisque finalement ça permet
d'aller un peu plus loin. Avec des propositions très précises en termes de calcul de l'indemnité sur une période d'un an en fonction, avec un minimum au SMIC et en fonction du nombre de jours travaillés sur une période d'un an après l'ouverture des droits. Donc voilà. Après, il y a eu la sécurité sociale professionnelle telle que le préconise la CGT, c'est-à-dire conservation du contrat de travail entre deux emplois, maintien du salaire antérieur avec au minimum 80% du SMIC revalorisé pour les allocations de chômage, indemnisation pour les primo-demandeurs d'emploi dès leur inscription, droit à la formation professionnelle tout au long de la vie, c'est-à-dire que quand un salarié voit que son emploi est supprimé, eh bien il part en formation. Et il est en formation jusqu'à ce qu'il puisse se reconvertir professionnellement. Et puis, il y a également une évolution ascendante du salaire sur la carrière. Donc voilà, il y a tout ça. Donc grosso modo, on est sur une indemnisation de toutes les formes de chômage, au moins au SMIC, la nécessité d'une réduction du temps de travail. Aussi, au niveau du financement quand même, nécessité d'arrêter les exonérations de cotisations sociales et même d'augmenter, voire de doubler ces cotisations. Et ça, c'est très important. Nous, il n'y a personne dans AC ne pense que cette liquidation de l'UNEDIC c'est vraiment une sale opération, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, il reste quelques minutes pour parler éventuellement des prochaines échéances ou des prochaines luttes. Dernièrement, il y a eu une réunion devant l'UNEDIC.
Il y a quelques jours, donc, les syndicats, dont la CGT, là, qui était un peu en plus, faisaient comprendre que, oui, c'était une réunion, mais qu'il y aurait d'autres mobilisations après, etc. Mais il est clair qu'on approche de la période des vacances et il n'y aura pas de reprise avant septembre, etc. Mais tout n'est pas totalement bouclé dans cette réforme. Et peut-être qu'ils ont lancé le ballon un peu loin et il y aura des adaptations à la marge, parce que je crois que ça passe mal. Les syndicats, ils contestent un peu mou, c'est vrai. Même dans l'opinion publique, j'ai l'impression que cette réforme passe mal, quoi. Tout le monde a bien... même ceux qui ne sont pas au courant des chiffres, devinent que la vie des chômeurs est économiquement difficile.
Tout à fait, oui.
Et
oui,
on l'a réduit encore, ça passe mal dans l'opinion publique.
On n'a évidemment pas parlé, hein, il y a une baisse du chômage, donc selon les critères de l'INSEE, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une augmentation du travail précaire. Et donc, de fait, beaucoup de gens sont impactés, finalement, par les réformes.
Oui, voilà.
C'est parce qu'il y a une baisse du chômage
qu'on
est mieux indemnisé. Eh bien, écoutez, cette émission va donc se finir, à moins que vous ayez un dernier mot à rajouter.
Moi, je voulais dire que oui, donc hier, il y a eu la fête de la victoire des femmes de chambre des hôtels de Pont-de-Suresnes. Et donc, je voulais rappeler que elles ont fait la grève pendant un mois. Elles ont obtenu des contrats de travail parce que elles faisaient beaucoup d'heures de travail non rémunérées, bien que déjà auparavant elles avaient été intégrées dans le groupe Louvretel en tant que salariées. Alors qu'elles n'étaient plus déjà depuis 2013, elles n'étaient plus dans la sous-traitance. Mmh. Eh bien, de nouveau, elles avaient des heures de travail non payées et en plus de leur contrat, etc., parce qu'il y a énormément de travail. Et donc, elles ont obtenu presque, pratiquement des contrats à temps plein, toutes, plus un passage de certaines de CDD en CDI, plus des augmentations de salaire, des augmentations de qualification, etc. Donc, elles étaient vraiment très, très contentes. Voilà.
Une belle histoire, donc oui, de la lutte des femmes.
Voilà, et ne pas oublier aussi que le 8 juillet, donc c'est un lundi, je crois, à 11h devant le Conseil d'État, place du Palais Royal, nous allons faire une conférence de presse avec d'autres associations de chômeurs et avec certains syndicats de solidaires notamment, pour déposer un recours en Conseil d'État pour demander l'abrogation du décret du 28 décembre 2018 qui aggrave les contrôles et les sanctions sur les demandeurs d'emploi.
Voilà, en attendant un jour un référendum sur l'assurance chômage comme un référendum sur la privatisation de CDG, ce qui n'est pas encore le cas, mais que je vous conseille d'aller quand même sur le site pour voter.
Oui, j'ai voté. Un peu compliqué. Voilà.
Merci à vous. Et ben, on se retrouve donc dans une semaine. Ça sera pour l'émission d'Attaque. Bonne soirée.